VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 18 novembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Tchad, interpellation hier de plusieurs opposants au président Idriss Déby Itno.
Au Gabon, un pré-rapport remet de nouveau en cause les résultats de l'élection présidentielle.
À Bruxelles, les donateurs se sont engagés à aider la République centrafricaine à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les trois prochaines années.
À Kinshasa, surprise hier, c'est finalement Sami Badibanga qui a été nommé Premier ministre. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Plusieurs opposants ont été interpellés hier à N'Djamena. Le régime du président Idriss Déby Itno a interdit un meeting de l'opposition et désamorcé une motion de censure à l'Assemblée. Des détails avec John Lyndon.
Les incidents ont éclaté en fin d'après-midi lorsque les opposants ont voulu marcher vers le stade à Bena. Faute de parvenir au stade entièrement bouclé par les forces de l'ordre, ils ont dû replier vers le siège du parti de Saleh Kebzabo, leader de l'opposition. Il y aurait une trentaine de personnes arrêtées et internées au centre de coordination de la police judiciaire, a déclaré M. Kebzabo, qui mentionne notamment l'arrestation du chef d'un parti, Mahamat Béchir Ba. Le ministre de la Sécurité publique avait prévenu la veille que le meeting était interdit. M. Kebzabo a indiqué qu'il envisageait de saisir la Cour suprême, mais les magistrats sont en grève. La motion de censure déposée par l'opposition n'a pas été examinée à l'Assemblée car les députés de la majorité ne sont pas venus à la séance. L'opposition dénonce la situation sociale, les mesures d'austérité et la réélection du président Déby, qu'elle qualifie de « hold-up électoral ».
Un pré-rapport rédigé sous l'égide de l'Union africaine et révélé hier remet de nouveau en cause les résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a été réélu, mais son rival, Jean Ping, conteste toujours le résultat. Nandit Talani.
Les deux experts qui signent ce pré-rapport s'interrogent sur la présentation parfaite des procès-verbaux du Haut-Ogooué par rapport à ceux d'autres bureaux du pays. Ils sont si bien rédigés, ordonnés qu'ils paraissent invraisemblables, ont écrit le président de la Cour constitutionnelle du Tchad et un juge constitutionnel du Togo. Ils s'étonnent de la coïncidence entre le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprimés et l'attribution quasi totale de ceux-ci à un seul candidat. Pour Maître Francis Nkea, ministre des Relations avec le Parlement et un des avocats d'Ali Bongo, leur document n'est pas crédible. Dans la province du Haut-Ogooué, fief des Bongo, le président a obtenu 95% des voix avec un taux de participation de 99% lors du scrutin du 31 août dernier. Sur l'ensemble des 9 provinces, Ali Bongo a remporté l'élection avec 50,66% des voix contre 47,24% à Jean Ping, soit environ 10 000 voix d'avance selon la Cour constitutionnelle qui a rejeté le 23 septembre le recours de M. Jean Ping.
Le président congolais Joseph Kabila a créé la surprise en nommant hier Sami Badibanga comme Premier ministre, un député issu de l'opposition, mais radié depuis plusieurs années par son parti, ce qui pourrait diviser encore un peu plus l'opposition. Âgé de 54 ans et élu de Kinshasa, M. Badibanga était l'adjoint de Vital Kamerhe, modérateur de l'opposition au dialogue national et initialement donné favori à ce poste de Premier ministre. Mais l'accord du dialogue national est rejeté par le Rassemblement, qui représente la majeure partie de l'opposition réunie autour du parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, l'UDPS, qui avait boycotté ce forum. M. Badibanga est originaire de la province du Kasaï oriental, tout comme M. Tshisekedi.
Les donateurs de la République centrafricaine se sont engagés hier à Bruxelles à aider à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les trois prochaines années, ce pays dévasté par la guerre. Ce résultat est jugé positif par le président Faustin Archange Touadéra. Idriss Fall a joint Moussa Magloire, premier conseiller de l'ambassade centrafricaine à Bruxelles.
Très bien, très bien. La conférence a répondu aux attentes d'abord du peuple centrafricain et des autorités centrafricaines qui étaient sur les lieux. Parce que, in fine, nous avons obtenu des promesses de 2,268 milliards d'euros. Ça, c'est pour une exécution de 3 ans. On avait estimé 1 milliard et quelques. voilà ce qu'on a obtenu dépasse même nos attentes.
Et apparemment pour une durée plus courte, parce que vous demandiez sur 5 ans, et apparemment les dons vont venir sur 3 ans.
Oui, sur 5 ans, il y avait des priorités sur 3 ans. Donc sur 3 ans, on a estimé avoir 1 milliard et quelques, et nous sommes allés au-delà.
Quelle sera la priorité pour utiliser cet argent que vous allez recevoir des donateurs?
La priorité pour nous, c'est la sécurité, la réconciliation, le redéploiement de l'administration sur tout le territoire. Et vous savez là qu'on a les événements de l'administration avec prévu de mettre tout son futur autant au niveau de la capitale que dans le pays. Donc maintenant, l'État veut se déployer sur le territoire. Donc ça peut passer des priorités de l'État.
Est-ce qu'il y a des garanties de transparence et de bonne gouvernance?
Bon, oui, effectivement, le chef d'État tient à ça. Le chef d'État tient à la transparence de la gestion.
C'était Moussa Magloire, premier conseiller de l'ambassade centrafricaine à Bruxelles.
Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud pour empêcher des atrocités de masse. Mais la Russie a rejeté l'idée et la Chine s'est montrée réticente. Samantha Power a souligné que les 13 000 casques bleus de la mission de l'ONU au Soudan du Sud n'avaient pas les moyens d'empêcher un génocide, comme l'a reconnu le secrétaire général Ban Ki-moon dans son dernier rapport. De plus, le gouvernement sud-soudanais s'oppose au déploiement d'une force africaine de protection de 4 000 hommes qui pourrait les épauler.
Les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final ce vendredi à Marrakech à la 22e conférence de l'ONU sur le climat, censée progresser dans l'application de l'accord de Paris, malgré l'incertitude créée par l'élection de Donald Trump ici aux États-Unis. À Marrakech, au-delà des incontournables questions de procédure avec plus de 190 pays autour de la table, les financements ont encore été un sujet sensible. La ligne de fracture entre pays développés et en développement a ressurgi et les réunions au niveau ministériel cette semaine n'ont pas permis de progrès notables. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
L'Éthiopie a intensifié la répression des médias avec l'arrestation ou la condamnation d'au moins 3 journalistes et blogueurs depuis l'instauration de l'état d'urgence. Des détails avec Eric Manirakiza.
D'après le Comité pour la protection des journalistes, Abdi Gada, un journaliste de télévision actuellement sans emploi, n'a pas été revu depuis le 9 novembre. Befekadu Aïlou et Nathanaël Feleke, deux blogueurs, sont harcelés. Monsieur Aïlou a été libéré en octobre 2015 après 18 mois de prison, mais a été de nouveau arrêté le 11 octobre. Monsieur Feleke a été arrêté le 4 octobre avant d'être relâché sous caution. Et Gatachew Wolku, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Ethio Mihidar, a été condamné mardi à 1 an de prison. Selon le classement du Comité pour la protection des journalistes, l'Éthiopie est 4e sur la liste des pays qui pratiquent la censure et au 3e rang pour le nombre de journalistes emprisonnés en Afrique. Le gouvernement a décrété le 9 octobre l'état d'urgence pour une durée de 6 mois. C'était suite à un mouvement de contestation sans précédent. La répression a fait plusieurs centaines de morts et plus de 11 000 personnes ont été arrêtées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier à l'unanimité une résolution présentée par les États-Unis prolongeant 2 ans l'enquête internationale sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie. La mission d'enquête menée par les Nations Unies, conjointement avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a été mise en place par le Conseil de sécurité il y a 1 an. Elle a déjà conclu que les forces gouvernementales syriennes étaient responsables de 3 attaques au chlore et que l'État islamique, le groupe État islamique, avait utilisé du gaz moutarde. Le gouvernement syrien dément que ces forces aient utilisé des armes chimiques. La Russie, alliée du président syrien Bachar al-Assad, estime que les conclusions de l'enquête ne peuvent pas être utilisées pour une action au niveau du Conseil de sécurité et que le gouvernement syrien doit d'abord enquêter sur ces accusations.
Ici aux États-Unis, le premier ministre japonais s'est entretenu hier à New York avec Donald Trump. Shinzo Abe est le premier dirigeant étranger à rencontrer M. Trump depuis son élection à la présidentielle du 8 novembre dernier. Jean-Roger Bion.
Le leader japonais a dit avoir, je cite, « la conviction que Donald Trump est un dirigeant en qui je peux avoir une grande confiance ». Leur entretien était réellement cordial et il a porté sur des questions fondamentales, a affirmé Shinzo Abe sans autre précision. Pendant la campagne, Donald Trump avait laissé entendre que les États-Unis faisaient trop pour défendre le Japon. Il a été avancé l'idée de permettre au Japon et à d'autres nations dans la région d'avoir des armes nucléaires et de les forcer à payer plus pour appuyer le déploiement de troupes américaines sur leur territoire. M. Trump a par ailleurs menacé de rejeter le TPP, accord de libre-échange transpacifique que Tokyo appuie. Parmi les autres rencontres que M. Trump a eues hier, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, et la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, possible secrétaire d'État américaine. Et selon certaines sources, le président élu a offert le poste de conseiller à la sécurité nationale à l'ex-général Michael Flynn.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Maroc et la Banque mondiale ont lancé hier à Marrakech, à marge de la COP22, la première plateforme d'investissement vert en Afrique, le Green Growth Infrastructure Facility for Africa, GGIF for Africa. Objectif, catalyser la transition en Afrique vers une économie verte et d'orienter les flux de capitaux vers la mise en place de projets d'infrastructures efficaces, durable et à faible intensité de carbone. Le nouveau fonds entend également répondre aux besoins importants d'accès aux infrastructures en Afrique et aux chantiers d'électrification du continent. La République de Chypre a accueilli près de 3 millions de touristes en janvier et octobre, battant en 10 mois le précédent record établi sur l'ensemble de l'année 2001 dans cette île méditerranéenne à l'abri des troubles sécuritaires qui agitent le Moyen-Orient. Les revenus du tourisme comptent pour 12% du produit intérieur brut du pays. Enfin, l'OPEP tient aujourd'hui à Doha une réunion informelle consultative. Selon le ministre de l'Énergie du Qatar, Mohamed Saleh Al-Sada, plus d'une dizaine de membres y prendront part. Objectif, ramener sa production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour, mais aussi parvenir à un accord avec d'autres grands producteurs, notamment la Russie, pour relancer des cours déprimés par une surabondance d'offres depuis l'été 2014.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Quatrième étape du tour cycliste du Rwanda.
Oui, l'étape entre Rusizi et Huye, longue de 140 km, a été réglée au sprint par le Rwandais Joseph Areruya devant son compatriote Joseph Biziramiye. Au classement général, pas de changement, le Rwandais Valence Ndayisenga qui reste leader avec 1 minute 16 secondes d'avance sur Joseph Areruya. À suivre ce vendredi, la cinquième étape entre Muanga et Musenze.
Suite de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Oui, les Ghanéennes qui accrochent les Françaises 2 buts partout et décrochent leur premier point dans cette compétition. Le Ghana qui occupe la dernière place du groupe C. Les Nigérianes qui joueront, elles, dimanche contre l'Espagne, leader du groupe B.
Football toujours avec la Bolivie qui proteste.
La Bolivie a fait appel de la sanction de 2 défaites sur tapis vert infligée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible lors de 2 matchs de qualification pour le Mondial 2018. Cette sanction a coûté 4 points à la Bolivie qui s'était imposée 2-0 face au Pérou et avait fait match nul 0-0 avec le Chili.
Tennis, Masters de Londres, le sourire de Djokovic.
En expédiant le Belge David Goffin, 6-1, 6-2 ce jeudi, le Serbe termine invaincu de la phase de poule du Masters de Londres. Il met la pression sur Andy Murray qui doit encore se qualifier pour les demi-finales. Avec cette 3e victoire en 3 matchs, le numéro 2 mondial, qui était déjà assuré de rejoindre le dernier carré, reprend virtuellement la tête du classement ATP. Il terminera l'année à la première place si Andy Murray échoue à sortir de son groupe. La réponse dans quelques heures. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
New York Knicks, Washington 112-119, Milwaukee Miami 73-96, Portland Houston 109-126, Philadelphia Minnesota 86-110.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la nomination de Sami Badianga au poste de Premier ministre continue de susciter des réactions auprès des acteurs politiques de la société civile. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM.
Il était pourtant favori des pronostics pour être désigné comme le premier ministre du futur gouvernement. Le président de l'Union pour la Nation Congolaise, arrivé troisième au terme de l'élection présidentielle de 2011, dit prendre acte de la nomination de Sami Badibanga. Vital Kamerhe l'a dit lors d'une réunion avec les membres de son parti, juste après la publication de l'ordonnance présidentielle. Il a affirmé, je cite, « Mes ambitions ont toujours été au-dessus du poste de premier ministre », propos qui ne cache pas l'intention de Vital Kamerhe de se présenter à la prochaine présidentielle prévue en avril 2018 selon l'accord de la Cité de l'Union africaine. Pour sa part, le député national Toussaint Alunga, membre du groupe parlementaire UDPS et allié, d'où est issu Sami Badibanga, félicite son collègue mais réitère son appel à un large consensus sur le processus électoral.
Sami est nommé, c'est lui qui fut notre collègue et président du groupe parlementaire. Nous continuons à croire que les contacts des évêques continueraient à nous aider à produire ce que nous attendons, un document synthèse, à savoir l'inclusivité. Le premier ministre est nommé, mais nous pensons que pour affronter la parenthèse après le 19, il nous faut un document synthèse, il nous faut l'inclusivité. Si nous aimons réellement ce pays et si nous voulons la paix durable après le 19 ne viendra que de ce document synthèse ou l'amendement de cet accord. C'est un collègue, pourquoi ne pas le féliciter? C'est un collègue, je le félicite là où il est, mais j'appartiens au rassemblement.
Côté majorité présidentielle, on affirme que la nomination d'un opposant au poste de chef de gouvernement d'Union nationale est un tournant décisif dans la mise en œuvre des conclusions de l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine. André Alain Atundu est porte-parole de la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle salue cette décision du président de la République comme une concrétisation et une consécration de la volonté de la majorité présidentielle telle que consignée dans l'accord politique conclu. Sur le plan de principe, ceci respecte cela. Ceci dépend évidemment des paramètres propres au président de la République par rapport aux objectifs et à la coopération dans la gestion du. C'est une avancée significative, je dirais même que c'est un tournant déterminant.
Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, lui, estime que la décision du chef de l'État est précipitée alors qu'il fallait d'abord un consensus plus large. Néanmoins, Jonas Tshombela invite le nouvel exécutif à envoyer des signaux forts dès le départ afin d'apaiser les esprits.
Pour le moment, nous regrettons que ce soit aussi précipité. On aurait souhaité que M. Sami soit issu d'un consensus inclusif afin qu'il ait le champ libre pour travailler. Et là, il part sur des bases controversées, surtout qu'il vient encore d'une branche refusée de l'UDPS.
À l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS détient Tshisekedi. On se refuse pour le moment. À tout commentaire. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, nombre de chauffeurs de taxi mettent les bouchées doubles pour réparer et repeindre leur taxi afin de se mettre à jour avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Le gouvernement leur avait demandé de se doter de taxis propres et présentables. Cependant, certains chauffeurs semblent ignorer ces exigences, ce qui préoccupe tant les autorités que les chauffeurs, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Les chauffeurs de dernière minute se ruent dans les garages automobiles pour se mettre en conformité avec la requête du gouvernement qui les a sommés de faire peau neuve avant la canne féminine qui commence ce samedi 19 novembre 2016. André Fouda est tolé à Milène, une localité située dans la capitale Yaoundé. Il explique que les chauffeurs se dépêchent dans ces locaux pour faire remplacer la peinture, voire la carrosserie de leur voiture pour être prêts avant le jour J.
On ne parvient même plus à recevoir tous les clients parce qu'ils sont aussi nombreux. Souvent, on travaille jusqu'à 18h, des fois 19h même. Ils refont la peinture jaune, ils refont les sièges et d'autres écrivent même partout là, Cannes 2016, par-ci, par-là.
Par ailleurs, ces chauffeurs n'ont pas seulement reçu pour instruction de changer l'aspect esthétique. Ils sont également appelés à revoir leurs attitudes qui ne sont pas toujours les plus appréciées, notamment le non-respect du code général de la route, l'absence de professionnalisme, mais aussi la mauvaise tenue vestimentaire des chauffeurs et le manque de courtoisie de ces derniers. Cependant, d'autres chauffeurs donnent l'impression de ne pas se sentir concernés par ce qui leur a été demandé et boudent le vœu du gouvernement qui est celui de voir circuler des taxis propres et conformes pendant cette fête sportive. Certains usagers décrivent cette attitude.
Moi, j'ai constaté que rien n'est fait pour le moment. Ils attendent la dernière minute. Le Camerounais aime bien ça, attendre la dernière minute.
Ce matin, j'ai emprunté un taxi pour ouvrir la portière de la voiture. On est obligé de tirer une corde. Ce taxi était tellement vieux que si tu ne faisais pas attention, tu pouvais attraper du tétanos.
Les chauffeurs de taxi avaient été instruits de se mettre en condition avant la date butoir du 30 septembre 2016. Une date qui n'a pas été respectée par ces acteurs du secteur. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En Tunisie, première audience publique hier. De l'instance Vérité et Dignité, elle est chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Dili Diko a joint Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International à Tunis.
L'instance Vérité et Dignité, donc, est une instance de la justice transitionnelle en Tunisie. Elle assure l'investigation sur les violations des droits humains depuis 1955 jusqu'à 2013, la date de la création de l'IVD. Elle va jouer un rôle très important en ce qui concerne l'investigation sur les violations des droits humains. Aussi, elle va, donc, à la fin de ses travaux, elle va publier un rapport qui va être adressé aux autorités tunisiennes pour assurer des réformes administratives institutionnel et législatif pour assurer le respect des droits humains et pour assurer la rupture avec le passé des violations des droits humains en Tunisie.
Qui sont les personnes auditées par l'instance Vérité et Dignité ?
Ce soir et demain, donc, ça sera un moment historique pour la Tunisie puisque l'audition, ça va concerner les victimes des violations des droits humains et ainsi que pour la première fois, on va entendre donc des tortionnaires qui parlent des violations des droits humains et qui s'excusent de ces violations. C'est pour cela qu'on considère un moment historique qui peut aider à bâtir une nouvelle Tunisie.
Concrètement, quels sont les enjeux à ce stade pour la Tunisie ?
On a la question de la vérité, la question de la justice, la question d'assurer la transition vers un pays démocratique qui assure le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. C'est pour cela, ce genre d'audition, ça va jouer un rôle très important.
Et au niveau des associations de lutte pour les droits de l'homme, et pour vous, en tant que membre d'Amnesty International, en tant que directeur, quelles sont les attentes, en fait, de toute la société civile, des associations de défense de droits de l'homme vis-à-vis des auditions qui auront lieu?
On espère bien qu'on aura donc des auditions des victimes ou en même temps des tortionnaires qui assurent donc la divulgation et aussi de se montrer comment les ordres ont été donnés pour faire des violations des droits humains, d'assurer aussi de garantir pour tirer des leçons afin de mettre fin à l'impunité aussi pour faire face aux violations des droits humains en Tunisie. La société civile tunisienne a beaucoup d'ambition donc concernant le travail de la justice transitionnelle en Tunisie. On espère bien qu'on assure la rupture avec le passé de violation, en assurant aussi un état de droit, un état démocratique qui assure le respect des droits ainsi que le respect de leur engagement au niveau mondial.
Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International à Tunis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final ce vendredi à Marrakech à la 22e conférence de l'ONU sur le climat. L'ombre de Donald Trump a plané sur cette rencontre parce que le président élu des États-Unis a qualifié le réchauffement de la planète de canular et de complot chinois. Que faut-il retenir de cette réunion? Idriss Fall a joint à Marrakech Enzo Senga de l'ONG centrafricaine Jeunes volontaires de l'environnement, ou JVE.
Je suis présentement là à Marrakech pour la COP22 et la première semaine a eu lieu déjà. Donc là, nous entamons la deuxième semaine de la négociation. Et cette deuxième semaine, elle est marquée par la conférence de haut niveau, c'est-à-dire la conférence de haut segment, qui est réservée aux chefs d'État et gouvernement. Nous, qui sommes de la société civile, nous n'avons pas accès à cette segment de haut niveau, mais nous suivons la conférence en direct à travers les écrans. Ce qui était intéressant pour cette conférence de haut segment, c'est qu'il y avait une déclaration des chefs d'État africains qui, dans l'ensemble, était bien. Et après cela, il y avait le Niger aussi qui s'expliquait à parler au nom de tous les pays africains, c'est-à-dire le groupe Afrique. Il y a le président Hollande aussi qui continue après l'accord de Paris, car comme il le dit, la planète est un bien commun pour tous. Donc il réaffirme son engagement pour l'accord de Paris. Ce qui faisait un peu peur, c'était les États-Unis avec l'élection du nouveau président, de Trump, dont tout le monde parle ici. Il y a des rumeurs qui circulent. Voilà, les États-Unis et l'Amérique vont se retirer du processus de l'accord de Paris. Suite à cela, je pense que les négociateurs venant des États-Unis qui ont tenu une conférence de presse, ils réaffirment l'engagement des États-Unis à soutenir ou encore à poursuivre l'accord de Paris. Comme il le dit, les États-Unis ne pourraient pas quitter l'accord de Paris du jour au lendemain. Il reste le chef de l'équipe des négociateurs américains.
Pour l'Afrique qui subit le plus le réchauffement de la planète, qu'est-ce que les Africains attendent de cette conférence?
Comme on le dit depuis à Paris, il était question que les pays européens, c'est-à-dire les pays les pollueurs, puissent accorder 100 milliards de dollars aux pays africains pour lutter contre les changements climatiques. Et là, je pense, lors de haut segment, il y avait une rencontre avec les pays africains. Et je pense que les pays européens, comme le G7, réaffirment son engagement à soutenir ces processus. Le Maroc, qui est le pays hôte aussi, comme le roi a dit, il demande à ce qu'il puisse suivre cette conférence. C'est-à-dire, le Maroc sera le chef de file pour faire en sorte que voilà, cet argent soit décaissé ou encore pour faire en sorte que ce financement soit réalisé pour que les pays africains puissent s'adapter à ce concept de changement climatique. Donc, je pense, dans l'ensemble, le groupe africain, c'était l'idée, c'était cette initiative qu'ils ont prise. Donc, c'est l'idée de réaliser ces 100 milliards de dollars qui doivent être accordés aux pays africains.
Enzo Senga, de l'ONG centrafricaine Jeunes volontaires de l'environnement, ou JVI, ou E, à Marrakech.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.